Nous allons continuer notre méditation dans l'évangile de Jean au chapitre 8, versets 34 à 36. Jésus dit « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. » Voilà ce que Jésus veut faire par sa croix aujourd'hui. Dans ce Triduum pascal, il nous fait passer de la mort à la vie, il nous libère du péché. Nous avons lu hier soir dans la messe de la Seine, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première lecture, la lecture du chapitre 12 du livre de l'Exode, qui rappelle les prescriptions pour la Pâque des Hébreux. On pourrait se dire, mais c'est une vieille histoire, en quoi cette Pâque nous concerne encore. Le père Jean-Rodolphe a rappelé tout à l'heure, pendant le chemin de croix, que les Juifs se préparent à célébrer eux-mêmes la Pâque, aujourd'hui, demain. Alors, relisons ce texte. Cette histoire de cet agneau mangé en toute hâte avant de s'enfuir de l'Égypte. Cet agneau qui doit être immolé sur le soir et qui sera un mémorial. Et dont Dieu dit qu'il est la Pâque du Seigneur. Avec le sang de cet agneau qui doit être répandu sur les portes, sur les linteaux des portes, pour protéger le peuple de l'extermination qui va toucher les Égyptiens. Je relis ce texte. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Voilà ce passage d'Exode 12 qu'on lit à l'ouverture du Triduum pascal pendant la messe de la Seine, alors qu'on fête l'institution de l'Eucharistie. Vous l'avez compris, aujourd'hui, l'agneau pascal est immolé pour nous. C'est le Christ qui est préfiguré dans ce texte. Son sacrifice sur la croix a lieu à l'heure des sacrifices d'agneau dans le temple de Jérusalem, selon le mémorial précisément prescrit par le livre de l'Exode. Aujourd'hui, vendredi saint, le Christ est cet agneau sans défaut, sans péché, immolé pour sauver le peuple de l'esclavage du péché. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre, dit Jésus. C'est la Pâque du Seigneur. L'Eucharistie est ce mémorial que Jésus nous a laissé. C'est ce qu'il signifie lorsqu'il dit « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Ce mémorial, c'est comme dans la Bible, un mémorial, c'est quand on, par exemple, on construit un monument pour dire qu'ici, il s'est passé quelque chose. Et puis, dans ce lieu, à chaque fois qu'on va revenir, on va être mis en contact avec Dieu, avec la grâce qui a été donnée. Voilà ce mémorial que Jésus nous a laissé, c'est l'Eucharistie. Quand le prêtre dépose le Saint-Sacrement à la fin d'un temps d'adoration, il dit souvent cette prière. « Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de la rédemption. » L'Eucharistie que Jésus institue le jeudi saint est le mémorial de sa passion. Aujourd'hui, nous contemplons Jésus dans sa passion. C'est aujourd'hui que le corps et le sang de Jésus sont livrés pour notre rédemption. Et l'Eucharistie que nous recevons et que nous aimons adorer en est le mémorial. Par sa mort, nous recevons la vie. Et ce mémorial est une nourriture qui nous fait faire ce passage, cette Pâque. C'est pourquoi on donne la communion aux mourants sous forme de viatique. C'est d'ailleurs ainsi, en quelque sorte, que nous la recevrons ce soir. J'y reviendrai. Comme l'écrit Méliton de Sardes, que je citais ce matin dans son homélie sur la Pâque, dans l'office des lectures du jeudi saint, je cite, « Conduit comme un agneau et immolé comme une brebis, le Christ nous a délivrés de l'idolâtrie du monde comme de la terre d'Égypte. Il nous a libérés de l'esclavage du démon comme de la puissance de Pharaon. Il a marqué nos âmes de son propre esprit et de son sang les membres de notre corps. C'est lui l'agneau muet. C'est lui l'agneau égorgé. C'est lui qui est né de Marie, la brebis sans tache. C'est lui qui a été pris du troupeau, traîné à la boucherie, immolé sur le soir, mis au tombeau vers la nuit. Sur le bois, ses os n'ont pas été brisés. Dans la terre, il n'a pas connu la corruption. Il est ressuscité d'entre les morts, et il a ressuscité l'humanité gisant au fond du tombeau. C'est pourquoi nous chantons pendant tout ce Triduum, le Christ, notre Pâque, a été immolé, et même encore pendant le temps pascal, nous aimons en redire, le Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est lui qui nous a fait faire le passage, c'est lui qui nous a délivrés. Alors, qu'est-ce que nous vivons pendant ce Triduum pascal, qui est comme une seule grande Eucharistie, ce mémorial de la Passion. En 3 jours, et nous sommes dans le 2e jour, nous avons vu l'institution de l'Eucharistie, aujourd'hui la Passion, et demain nous vivrons la Résurrection. Ce passage aboutit à la Résurrection. C'est pourquoi hier, je vous disais que la messe ne se terminait pas. Vous voyez qu'on est, allé prier au reposoir dans la nuit, et puis aujourd'hui, on continue à prier. C'est comme si on avait cette grande messe qu'on regarde au microscope et on voit un petit peu tous les aspects de l'Eucharistie. C'est d'une profondeur insondable. Vous avez entendu ce matin, à l'Office des Ténèbres, la lecture patristique, cette grande homélie ancienne. Je vous en relis quelques extraits. En vérité, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il s'est offert au Père en sacrifice nouveau, et véritable de réconciliation, non dans le Temple, dont la dignité avait déjà pris fin, mais à l'extérieur et hors du camp, pour qu'à la place des victimes anciennes, dont le mystère était aboli, une nouvelle victime fut présentée sur un nouvel autel, et que la croix du Christ fut cet autel, non plus du temple, mais du monde. Le Christ accomplit les sacrifices de l'ancienne alliance. Je poursuis cette homélie plus loin. Pour nous, aujourd'hui, accueillons d'un cœur libéré la gloire de la croix qui rayonne sur le monde. Pénétrons d'un regard éclairé par l'esprit de vérité le sens de la parole du Seigneur annonçant l'imminence de sa passion. Jésus disait « C'est maintenant le jugement du monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » C'est pour cela que cette homélie ancienne rappelle que Jésus a été mis à mort, non pas dans le temple, mais à l'extérieur, hors du camp, pour manifester cette universalité du salut. Jésus dit lui-même, une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et plus loin encore, la même homélie se fait prière, nous pouvons reprendre pour nous. Ta croix, ô Christ, est la source de toutes les bénédictions, la cause de toute grâce. Par elle, les croyants tirent de leur faiblesse la force, du mépris reçu la gloire et de la mort la vie. Voilà ce retournement complet que nous vivons pendant ce Triduum pascal. Et l'homélie se termine par ces mots. Désormais, l'unique offrande de ton corps et de ton sang donne leur achèvement à tous les sacrifices. Car tu es, ô Christ, le véritable agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde. Pendant le chemin de croix, on a prié un moment, on a chanté « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ». Certains ont pu se dire « Mais on chante ça pendant la messe ». Et justement, maintenant quand vous allez vivre la messe, peut-être que vous allez repenser à cette grande messe en 3 jours que vous avez vécue à Paray-le-Monial. Et quand vous entendrez parler de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, peut-être que ça prendra un nouveau relief, que vous repenserez à Exode 12. Alors voilà, ce soir, nous allons vivre la deuxième grande partie de ce Triduum pascal, qui est l'office de la Passion. Hier, la messe de la Seine, et ce soir, l'office de la Passion. C'est un peu comme le deuxième volet de notre triptyque. Alors, comme je l'ai déjà dit, c'est la suite. Alors, il n'y a pas vraiment d'entrée au sens habituel. Vous n'entendrez pas le prêtre vous saluer, le Seigneur soit avec vous, etc. Simplement, c'est assez impressionnant, les prêtres, avec tous les ministres, vont entrer en silence complètement. Vêtus de rouge, couleur du sang, et ils vont venir se prosterner la face contre l'autel, la face contre terre, pardon, devant l'autel. Alors quel est ce signe? Bien sûr, c'est un signe d'humilité, de pénitence. Ce geste rappelle l'anéantissement volontaire du Christ en croix qui s'est laissé clouer. Pour tous, ce geste nous enseigne à renoncer à notre propre vie pour suivre le Christ jusqu'à la mort. Rappelez-vous, nous devons mourir avec lui pour ressusciter avec lui. La position allongée dans la liturgie est assez rare, il faut en convenir, mais elle existe et elle symbolise la mort. La position à genoux signifie la pénitence ou l'adoration, la position debout, la louange ou la résurrection, et la position allongée, la mort. Par exemple, dans les ordinations ou dans les professions religieuses, l'ordinant ou le novice s'allonge, se prosterne de tout son long, pour signifier qu'il veut mourir à lui-même pour entrer dans une vie nouvelle. Les chartreux aussi s'allongent après avoir reçu la communion pendant la messe. Il y a quelque chose lié à la mort de Jésus pour vivre la résurrection. Bien sûr, on ne meurt pas physiquement, Dieu merci, mais il s'agit de marquer sa détermination à vouloir mourir à son ancienne vie pour renaître à une vie nouvelle. Voilà une invitation qui nous est faite à tous en ce jour du Vendredi Saint. Et c'est d'ailleurs le sens de notre baptême, mourir avec le Christ pour renaître à une vie nouvelle. Nous le verrons plus tard dans la vigile pascale. Alors ce soir, ce sont les prêtres qui seront prosternés. Nous n'allons pas tous le faire pour des raisons pratiques, mais c'est symbolique pour que nous puissions nous-mêmes, à l'intérieur de notre cœur, dire au Seigneur, Jésus, je veux bien te suivre jusqu'à la croix, je veux bien mourir à ma vie ancienne pour entrer dans une vie nouvelle avec toi. Nous pouvons nous préparer à ce geste dans cette fin d'après-midi. Alors pendant que les prêtres sont ainsi prosternés à terre, tous les fidèles prient évidemment en silence quelques minutes et s'unissent de cœur au geste des prêtres. Puis quand les prêtres se relèvent, celui qui préside dit directement la collecte, cette oraison du début de la messe que nous avons l'habitude d'entendre. Mais là, ce n'est pas vraiment le début de la messe, c'est le début de l'office de la Passion qui, vous allez voir, est un peu particulier et qui est à comprendre dans l'ensemble du Triduum Pascal. Voilà cette collecte. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Nous sommes au cœur de ce mystère de Pâques. Ensuite, il y aura une liturgie de la parole, avec en première lecture le quatrième chant du serviteur. Si vous êtes allé à la messe pendant la semaine sainte, lundi, mardi, mercredi, vous avez entendu tous ces chants du serviteur et déjà le dimanche des rameaux. C'est ce mystérieux serviteur souffrant prophétisé par Isaïe qui préfigure clairement le Christ. Les détails sont saisissants. Ici, c'est dans Isaïe 52 à 53. Isaïe 52, 13 à 53, 12. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Et c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et le texte se termine par la perspective du salut universel. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Vous l'entendrez ce soir. C'est étonnant parce que ce texte est prophétisé par Isaïe et le Christ, on le voit, accomplit parfaitement les Écritures. C'est le Messie attendu, un serviteur souffrant. Et à la délivrance du peuple d'Israël est jointe le salut des nations. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Le serviteur, écrasé par le poids des fautes qu'il a prises sur lui, meurt, mais sa mort est comme un sacrifice expiatoire. Il a le pouvoir d'intercéder pour les pécheurs, de sauver les pécheurs. Après ce texte, nous entendrons le psaume 30, psaume 30 encore qui préfigure aussi la croix du Christ. Et c'est dans ce psaume qu'on trouve ces mots même du Christ sur la croix. « En tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur, je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. » Dans tous les psaumes, vous regarderez, en tout cas la plupart, il y a ce mouvement, ce cri vers Dieu du psalmiste dans la difficulté, et puis à la fin, il y a toujours cette remontée vers l'espérance. Ce matin, vous avez entendu le psaume 21 dans l'office des lectures, qui commence par ces mots de Jésus en croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quand Jésus prie sur la croix, avec une phrase, on peut déduire que c'est le psaume tout entier qu'il prie. Et donc, il ne faut pas s'arrêter à la première phrase, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais ce psaume se termine avec, dans la louange. « Je proclamerai ton nom dans la grande assemblée. » Donc là, de la même manière, « Sur ton serviteur que s'illumine ta face, soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. » Alors ces lectures sont vraiment marquantes parce qu'on voit bien comment le Christ accomplit les Écritures précisément. Et en même temps, elles peuvent nous rejoindre. Dans nos vies aussi, ces mots peuvent être les nôtres. Je fais peur à mes amis, s'ils me voient dans la rue, ils me fuient. J'étais il y a quelque temps visiter une amie qui a mon âge et qui a eu un grave accident cérébral et qui est très marquée maintenant et très diminuée. Et j'avais l'impression de voir le Christ sur son lit d'hôpital. Et je pensais exactement à ces paroles du chant du serviteur et à ce psaume. Méprisé, abandonné de tous, homme des douleurs, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne. Même son mari se demande s'il va rester, voyez. Tellement c'est difficile de te confronter à la souffrance sans rien pouvoir faire. Et de voir ce qu'on aime, ou qu'on a aimé, être défiguré par la souffrance. Et donc, aujourd'hui, nous regardons le Christ qui n'est pas beau comme dans la transfiguration, mais qui est défiguré. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait montré sa gloire à ses disciples en avance, pour les aider à supporter l'épreuve de la passion. Et on voit bien le Christ abandonné de tous. Même ses plus fidèles disciples n'ont pas réussi à soutenir cette vision, à part quelques-uns, comme Saint Jean et les femmes. Alors nous aussi, n'ayons pas peur, nous voyons bien que face à la souffrance dans nos vies, nous ne sommes pas forcément capables de faire bonne figure. Parfois, nous partons en courant, mais le Seigneur le sait et il a pris sur lui même ce péché-là, toutes nos trahisons, toutes nos lâchetés. Donc nous pouvons aujourd'hui simplement les reconnaître et le remercier de ne pas nous en tenir rigueur, mais de nous sauver, d'être allés jusqu'au bout. La deuxième lecture, c'est Hébreux 4, qui nous fait voir le Christ comme le grand prêtre de la Nouvelle Alliance. Le prêtre, c'est celui qui offre les sacrifices pour le peuple, c'est celui qui est le médiateur, qui fait monter les prières vers Dieu, qui parle au nom de Dieu. Il y a des prêtres dans plusieurs religions. Mais quel est le sens du sacerdoce du Christ. Dans Hébreux 4, 14 à 16, En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses. En toute chose, il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ a voulu partager nos faiblesses. Il n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses. En toute chose, il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. Voilà pourquoi il est le grand prêtre. Il est celui qui nous ouvre le passage vers Dieu, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, l'unique chemin du salut. Il y a une préface à la messe qui dit qu'il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. Il a tout pris sur lui. L'Épître aux Hébreux est une clé de lecture de ce que nous vivons ces jours. Jésus se livre pour être lui-même le seul sacrifice capable de nous sauver. Il se fait obéissant pour nous guérir de notre désobéissance. Alors, remercions-le pour ce chemin, pour d'avoir pris ce chemin pour nous, nous qui en étions incapables. Le verset d'acclamation de l'Évangile qui précède la lecture de la Passion ce soir est celui-ci, qui reprend Philippiens 2. Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Il nous a aimés jusqu'au bout. C'est ce jusqu'au bout, cet amour jusqu'au bout, qui a permis de descendre tellement bas qu'ensuite il a été exalté. C'est pourquoi ce mystère pascal que nous célébrons sur 3 jours est indivisible. L'Église ne peut pas évoquer la croix et la mort du Seigneur sans annoncer déjà sa victoire. Sinon, la croix, la souffrance n'aurait aucun sens. L'obéissance du Christ nous sauve, il nous rétablit dans la communion avec Dieu. Il fait pour nous ce qui est impossible pour nous. Vous vous rappelez, Jésus dit à ses disciples qui lui demandent « Mais qui peut être sauvé ?» Et il dit « Pour les hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. » Aujourd'hui, nous sommes comme au fond de l'impasse. Nous réalisons que pour nous, c'est impossible. Nous avons bien essayé pendant le carême. Ça n'a pas volé très haut, enfin, je ne sais pas vous, mais moi. Et on a bien essayé de faire des efforts. Mais en fait, quand on veut se sauver soi-même, ça ne va pas très très loin. C'est même un peu le contraire parfois qui se passe. Et on est vite au bout de ses limites. Alors soit on peut se décourager et se résoudre à la médiocrité, ce qui est bien triste, parce qu'on n'est pas, on s'est pas mis à la suite du Christ pour s'arrêter en chemin, ça serait encore pire que tout. Mais une fois qu'on est au bout de l'impasse, la seule chose à faire, c'est de demander à Jésus de venir nous sauver. Et c'est pour ça que ce soir, nous allons lire la Passion selon saint Jean. Tous les vendredis saints, dans toutes les églises depuis toujours, on lit l'Évangile selon saint Jean, chapitre 18 et 19, la Passion. C'est la continuité du récit du lavement des pieds la veille. Vous savez, on avait lu saint Jean 13. On a pu éventuellement lire, ou on pourra lire d'ici ce soir, les chapitres 14 à 17, si vous avez du temps, qui sont traditionnellement lus pendant la veillée, pendant la nuit à Gethsémani. En tout cas, certains monastères ont gardé cette tradition, les dominicains, les bénédictins. Donc on peut lire ces chapitres 14 à 17 de saint Jean, qui sont comme le testament de Jésus, ses dernières paroles avant la Passion. Et de lire ça aujourd'hui dans cette perspective de aujourd'hui où on contemple Jésus sur la croix, qui se livre pour nous, et d'entendre « Je fais de vous mes amis », voilà, peut être une grande consolation. Une manière de rester avec lui et de le remercier. Alors nous allons entendre cette lecture de la Passion. Saint Jean nous fait contempler la souveraine majesté de Jésus qui marche volontairement vers son sacrifice. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, écrit aussi l'évangéliste Saint Jean. De différentes manières, Saint Jean montre comment le Christ a accompli toutes les Écritures et sa souveraine liberté, et donc du coup la puissance de son sacrifice. Parce que s'il n'avait pas été libre, le sacrifice n'aurait pas cette puissance. Par trois fois, il dit, quand on vient l'arrêter, « C'est moi, qui cherchez-vous ? C'est moi !» Littéralement, « Ego eimi, je suis ».« Je suis », c'est le nom de Dieu lui-même. Et d'ailleurs, vous entendrez que son arrestation est comme une théophanie, les soldats tombent à la renverse, tellement c'est puissant qu'ils disent « Je suis ». Lui qui est le Verbe, la parole de Dieu, quand il dit « Je suis », il dit son propre nom, le nom de Dieu. C'est comme une théophanie et les soldats sont mis par terre. Donc il n'est pas pris parce qu'il est faible. Il n'a jamais été aussi fort et puissant que par son sacrifice librement consenti. Et il a accompli toutes les Écritures. Alors devant la croix, dans cette lecture de la Passion, laissons monter notre prière et disons à Jésus notre désir, comme on le disait ce matin, Jean 7, 37, 39, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Comme dit l'Écriture, « De son sein couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors la seule chose qu'on peut faire en écoutant la Passion, c'est donner notre foi à Jésus. « Jésus, j'ai confiance en toi. » Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Disons-lui notre désir de boire à cette source, de recevoir l'Esprit Saint. Redisons-lui notre foi, notre confiance en lui, qui peut vraiment faire toute chose nouvelle dans nos vies aujourd'hui, parce que nous sommes dans ce temps favorable, nous sommes en train de célébrer la Pâque. C'est à cause de cette puissance, de ce Vendredi Saint, que l'Église, depuis l'Antiquité, prie particulièrement ce jour-là pour le monde entier, pour tous les hommes. « Quand je serai élevé de terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. » C'est pourquoi, après l'homélie, il y a une grande prière d'intercession, une prière universelle qui est très ancienne, et qui est le modèle de toutes les autres. Quand vous avez une prière universelle le dimanche, peut-être que c'est vous qui l'écrivez, ici c'est la prière traditionnelle de l'Église qu'on prie le Vendredi Saint. Il y a 10 intentions, ponctuées chacune à sa propre oraison. On va se mettre probablement à genoux à chaque fois, donc ça prend un certain temps. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on prie vraiment pour tous les hommes, pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui croient au Christ, pour ceux qui ne croient pas au Christ, pour les Juifs, pour les hommes politiques, pour les malades, pour tous. Et aujourd'hui, nous qui voulons suivre le Christ, puisque nous sommes ici à Paris, nous qui lui donnons notre vie, nous sommes invités à nous unir particulièrement à cette grande intercession que l'Église fait monter vers Dieu pour le monde entier. Aujourd'hui, Vendredi Saint, il y a une puissance particulière à cette intercession pour le monde. C'est saint Paul, dans la première épître à Timothée, au chapitre 2, versets 1 à 6, 1 Timothée 2, 1 à 6, qui exhorte à prier pour tous les hommes. Ce texte est le fondement de nos prières universelles. J'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà le fondement de cette grande prière. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et aujourd'hui, Vendredi Saint, nous croyons que le Christ veut rejoindre tous les hommes. Quand je serai élevé de terre, sur la croix, j'attirerai à moi tous les hommes. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du cardinal Lustiger, qui est décédé en 2005, qui était juif et qui, à l'âge de 10-12 ans, est tombé sur une Bible dans la bibliothèque de ses parents. Et il disait « J'ai lu la Bible avec passion, je n'en ai rien dit à personne ». Et il explique qu'il a vu dans le Nouveau Testament l'aboutissement de l'Ancien Testament qui lui a fait découvrir les racines de son identité juive. Et puis alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, ses parents l'envoient à Orléans avec sa sœur pour échapper aux persécutions des Juifs. Et c'est là qu'il découvre vraiment la foi catholique. Lors de la Semaine Sainte, l'adolescent a presque 14 ans, et alors qu'il va au lycée Potier à Orléans, il décide d'entrer dans l'église. Il est comme attiré à entrer dans la cathédrale Sainte-Croix. Sans savoir, raconte-t-il, que c'était le Jeudi Saint, le jour de l'institution de l'Eucharistie. Il reste en silence un grand moment, sans rien dire, et puis il revient le lendemain. Il s'aperçoit que l'église est absolument dépouillée, sans savoir que si l'église est dépouillée, nue comme un cadavre, c'est parce qu'il s'agit du Vendredi Saint, jour de commémoration de la Passion du Christ. Et cette scène le touche au plus profond de son être. Il raconte « J'ai subi l'épreuve de ce vide sans savoir que c'était le Vendredi Saint. Et à ce moment-là, j'ai pensé « Je veux être baptisé ». Voilà, et il est devenu archevêque de Paris, cardinal, et c'est lui qui a fait poser cette croix lumineuse qu'on voit encore dans le cœur de Notre-Dame. Et je vous raconte cette histoire pour dire que aujourd'hui notre prière universelle, c'est pas seulement un acte liturgique formel, mais mettons-y toute notre foi, tout notre cœur. Nous ne savons pas la puissance de cette prière. Voilà, peut-être qu'il y aura un nouveau archevêque de Paris pour dans 30 ans, qui va se convertir ce soir, grâce à vous, grâce au Christ. Alors, après cette grande prière universelle, nous vivrons le moment particulièrement caractéristique de ce deuxième volet de notre triptyque, c'est la vénération de la croix. La vénération de la croix qui est au centre de l'office de la Passion, et c'est vraiment un moment très important, très, très traditionnel. Vous savez que c'est Sainte Hélène qui avait retrouvé la croix. Et depuis le IVe siècle, l'Église vénère la croix. Alors nous n'avons pas la vraie croix, bien sûr, mais dans toutes les églises, on vénère la croix. Non pas parce que c'est l'instrument de souffrance et de torture, mais parce que l'Église reconnaît dans la croix le mystère de notre salut et la plus belle preuve de l'amour de Dieu pour nous. Pendant la vénération, nous chantons le chant « Crucem tuam ». Ta croix, Seigneur, nous la vénérons, et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. Magnifique antienne du Vendredi Saint. Ta sainte résurrection, nous la chantons, vous avez bien entendu. Nous sommes Vendredi Saint, nous chantons la résurrection, parce que nous chantons la croix est le chemin pour la résurrection. C'est l'instrument de notre salut, et donc nous chantons notre joie. Toute la tristesse du Vendredi Saint, de la mort de Jésus, est emportée par le fleuve de joie que le Sauveur a répandu dans le monde. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques années le film La Passion de Mel Gibson qui avait fait coller beaucoup d'encre, magnifique film par ailleurs. Et il y a une scène qui m'a marquée, c'est au moment où il rencontre sa mère, c'est une interprétation bien sûr, mais On voit Jésus dans une, évidemment dans la passion, très douloureux et en même temps transfiguré par une joie surnaturelle, et il dit à sa mère, je fais toutes choses nouvelles. Alors voilà, Jésus fait toutes choses nouvelles dans sa croix, et donc il nous transmet cette joie. Cette joie qu'on chantera évidemment dans la vigile pascale, par exemple quand on chantera Isaïe 12, le cantique d'Isaïe 12, « Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. » Ivre de joie, exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Quelle est la source du salut? Bien, c'est justement la croix du Christ avec ce fleuve d'eau vive qui jaillit de son cœur. Tout l'Ancien Testament cherche cette source préfigurée de maintes façons. Si vous avez entendu les enseignements du Père Jean-Rodolphe, vous connaissez ça par cœur. Combien de passages de l'Ancien Testament annoncent cette source qui jaillit du côté ouvert du Christ? Je vous ai parlé ce matin d'Ézéchiel 47, mais il y en a bien d'autres. Et cette antienne tirée du cantique d'Isaïe 12, « Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut », est aussi chantée pour la fête du Sacré-Cœur. Je ne pouvais pas faire l'impasse. La tradition y a vu évidemment l'évocation du côté ouvert et des sacrements de l'Église qui en sortent, le baptême et l'Eucharistie, l'eau et le sang, qui sont véritablement les sources du salut, sacrement par lequel on devient chrétien. Nous en reparlerons quand nous parlerons de la vigile pascale. Pendant la vénération de la croix ce soir, on chante aussi cette triple acclamation d'origine orientale qu'on appelle le Trisagion, qu'on a déjà beaucoup chanté aujourd'hui. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Alterné avec les versets des impropères. Les impropères, c'est un chant très intéressant pour nous ici, à Parelmonial. Ça veut dire, impropère, improperium en latin, ça veut dire les reproches. Vous savez qu'ici, quand Jésus apparaît à Marguerite Marie, il lui montre son amour, et puis à un moment donné, il se plaint de l'ingratitude des hommes. Eh bien, le Vendredi Saint, nous avons un chant qui est cette plainte. Par exemple, chaque verset oppose par un contraste tout à fait saisissant un fait miraculeux de l'histoire d'Israël, où Dieu a fait des miracles pour son peuple, et un épisode de la Passion. Par exemple, Dieu dit « Moi, devant toi, j'ouvris la mer, toi, tu m'as ouvert de ta lance. » Mais le peuple qui a passé la mer est la figure de l'humanité tout entière. Et c'est à nous tous que s'adresse la plainte douloureuse de Dieu dont l'amour est méconnu. Plainte à laquelle nous répondrons « Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. » Alors ce soir, en vénérant la croix, en ce Vendredi Saint à Parelmonial, nous pouvons entendre cette plainte douloureuse du cœur de Jésus qui ne reçoit que des ingratitudes, et nous pouvons nous offrir pour le consoler. En vénérant la croix, évidemment, c'est le Christ que nous adorons et c'est son cœur que nous touchons avec amour quand nous vénérons la croix en l'embrassant. Dans les impropères, « Moi, aux eaux vives du rocher, je t'ai fait boire le salut. Toi, tu me fis boire le fiel, m'abreuva de vinaigre. » La communion conclut la célébration. C'est bien la communion uniquement, les rites de communion qui commencent au Notre Père. Il n'y a pas de consécration ce soir. Puisque nous avons célébré la scène hier, toutes les hosties consacrées que nous avons gardées au reposoir, que nous avons adorées pendant la nuit, eh bien à partir de cette sainte réserve, nous allons recevoir la communion comme une sorte de viatique, comme la communion qu'on porte à un malade. Avec la mort du Christ, l'Église nous permet de communier ce soir, simplement de manière sobre, comme dans la chambre d'un malade. Il n'y a pas de prière eucharistique, mais seulement les rites de communion. Le Notre Père, et puis il n'y a même pas de geste de paix. pour marquer l'attente de la paix qui est donnée par le ressuscité. Nous allons attendre la nuit de Pâques pour recevoir la paix du ressuscité qui va venir et dire paix à vous. Alors voilà, on communiera et puis il y aura une oraison finale qui marque bien encore l'unité de la mort et de la résurrection qui sont inséparables et que nous célébrons pendant ces 3 jours. Que ta bénédiction descende sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Et ensuite, il n'y a pas de renvoi, on se retire en silence. Et après cela, c'est le grand silence. L'absence même, le tabernacle reste vide et ouvert. Pas de lampe dans le sanctuaire, ni de bougie allumée dans l'église. C'est le temps de l'attente, du désir, de l'espérance, tout le samedi saint, l'attente longue peut-être de la résurrection. Nous savons que la mort n'aura pas le dernier mot. On peut prolonger par un office de compli, l'office de la mise au tombeau, mais qui n'est pas la fin de cette liturgie, elle se prolonge dans le silence du grand samedi jusqu'à la résurrection qui sera le véritable point d'orgue de ce tridium, de ces jours saints. Nous devons retenir de tout ça que la mort du Christ sur la croix est une vraie mort. Le Christ n'a pas fait semblant et pourtant elle n'est pas la fin mais un commencement. Aujourd'hui, Vendredi Saint, l'Église chante déjà la résurrection. Ta croix, Seigneur, nous la vénérons, et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. La résurrection et la joie sont déjà présentes aujourd'hui. Le Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cette croix est déjà une victoire parce qu'elle nous ouvre sur une vie nouvelle. Quand nous embrasserons la croix tout à l'heure, quand nous vénérerons ce bois qui a porté le salut du monde, puissions-nous consoler le cœur de Jésus en lui offrant notre pauvre amour, offrons-lui la foi et l'espérance que nous tenons de lui, redisons-lui avec toute l'Église notre acte de foi, et ce soir quand nous sortirons de l'Église en silence, nous garderons ce silence toute la nuit et demain, journée du grand silence. Nous attendrons ensemble, en priant les uns pour les autres, avec la Vierge Marie, nous attendrons dans le silence et la paix que se lève sur nous la lumière de la résurrection. Ta croix, Seigneur, nous la vénérons et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde.